Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Le Gratin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir à bord d'une leçon du gratin décollage dans quelques instants. Nous avons avec nous une charmante personne, Hélène, qui a créé les Golden Girls. Je vous invite à aller découvrir son Instagram, son site internet que je vous mets dans les notes de l'épisode. Golden Girls, c'est quoi ? C'est tout simplement un site, un écosystème qui va permettre à des femmes de mieux comprendre le monde de l'investissement, parce que le constat d'Hélène, c'est que les femmes ne s'y intéressent pas suffisamment, et donc elle a envie de battre en brèche finalement ses habitudes. Hélène me pose une question, elle me dit qu'elle en est au lancement de son activité entrepreneuriale et aimerait développer des partenariats, mais y a-t-il des best practices pour ça? Dans cet épisode, on a discuté beaucoup du coup de partenariat, de comment réussir à avoir des idées à la fois créatives mais quand même faciles à mettre en place, de mes erreurs aussi ou des choses que j'avais pu mettre en place avec Gémio, et je pense que ça lui a donné quelques idées pour la suite. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Hélène ?
Bonjour Pauline !
Eh bien écoute Hélène, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, en ce samedi. En plus, on peut le dire, tu as sacrifié ton week-end pour moi et pour nous, auditeurs du gratin. Hélène, est-ce que tu peux me dire déjà qui tu es, où tu vas et qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon ?
Tout d'abord, merci beaucoup Pauline, moi, je suis vraiment ravie, je suis une auditrice assidue des leçons, enfin du gratin et des leçons en particulier, donc merci beaucoup. Voilà, moi c'est Hélène et je suis la fondatrice de Golden Girls. Donc Golden Girls, c'est une plateforme de formation à l'investissement à destination des femmes.
Cool.
Ouais. C'est notre mission justement, c'est de rendre l'investissement accessible aux femmes, parce que aujourd'hui seulement 10 à 15% des femmes investissent. Donc il y a quand même encore un gros travail à faire. Donc voilà, le projet aujourd'hui il est encore très jeune, hein, puisque moi ça fait seulement 6 mois que je suis dédiée à plein temps au projet, et donc j'ai beaucoup de questions forcément dans le cadre de son développement. Mais j'avais une question en particulier, c'est ce qui m'a amenée du coup sur la leçon. Je me demandais comment construire une stratégie de partenariat efficace, et particulièrement justement quand on est encore une petite structure et que du coup, c'est pas évident d'être attractif, je dirais, aux yeux de partenaires potentiels. Donc voilà, parce que j'ai conscience qu'établir des partenariats avec d'autres marques ou institutions peut être un vrai plus aussi en termes de légitimité, etc. Mais voilà, moi je me questionne pas mal sur la bonne manière de procéder et puis les bonnes pratiques en fait.
Oui, bien sûr. Alors, des bonnes pratiques, je vais peut-être dire un poncif, mais je pense que la meilleure bonne pratique, c'est qu'il faut trouver tout simplement une idée qui crée de la valeur pour les deux. Alors, tu vas me dire, c'est débile, c'est évident, mais c'est pas si évident que ça à trouver, et donc ça nécessite d'être absolument créatif, bien sûr. Mais si tu veux, les marques qui ont un énorme nombre de followers, par exemple, peuvent assez facilement proposer de mettre l'autre marque partenaire en avant sur leurs réseaux sociaux. Toi, c'est pas encore le cas sans doute, donc tu ne vas pas pouvoir faire ça. Ça peut être tout simplement de proposer un service. Peut-être, tu vois, si tu travailles avec une marque partenaire et que tu peux leur proposer, gratuitement, par exemple, une des formations, des cours, enfin, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, un partenariat, pour qu'il marche et que ça soit pas juste beaucoup de travail, parce que là, je veux te mettre en garde, ça peut être aussi beaucoup de travail pour assez peu de résultats, eh bien, il faut vraiment que le partenariat et le partenaire soient convaincus, et toi aussi d'ailleurs, de la valeur ajoutée de ce partenariat. Que ce soit pas juste, si tu veux, une énième opération un peu cool, un peu sympa, où on a envie de travailler parce que, voilà, on se dit que ça peut potentiellement porter des fruits. Non, il faut vraiment que les gens y croient, et pour ça, il faut que la valeur ajoutée, elle soit clairement définie. Donc ça, c'est, je préfère le dire en préambule, parce que c'est vrai que moi-même, hein, avec Gémio, par exemple, j'ai fait beaucoup de partenariats et je me suis fait la remarque que je faisais parfois cette erreur de vouloir faire des choses créatives ou de rencontrer des gens sympas et du coup qu'on associe nos deux marques. Et en fait, sincèrement, si c'est juste sympa et que ça n'a pas une vraie valeur ajoutée, en fait, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut caler une opération, il faut y réfléchir, parfois il y a des coûts, etc. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est hyper, hyper important justement d'apporter de la valeur ajoutée de part et d'autre. Je te cite un exemple que j'ai déjà, je crois, évoqué une fois dans une leçon il y a fort longtemps qui n'a rien à voir parce que c'était une leçon sur la négociation. Mais un exemple de partenariat qui a de la valeur alors qu'on était une toute jeune entreprise chez Gémio, je t'explique. Ça te donnera peut-être des idées. Nous, on voulait faire de la publicité avec Gémio. On était une entreprise en développement, mais tu vois, on n'avait pas non plus des moyens qui étaient colossaux. Et j'avais cette envie de faire de la publicité dans le métro parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marques de joaillerie qui faisaient de la publicité dans le métro. Que pour moi, le métro, à l'époque, c'était quand même il y a maintenant 6-7 ans, hein, c'était l'endroit que tous les quand même CSP+ urbains prenaient à Paris. En tout cas, pour ceux qui prennent le métro à Paris, il y a quand même beaucoup de monde. Et il y avait quand même ces affichages en 4x3 énorme, il y en a beaucoup moins maintenant, qui faisait que quand tu avais des grosses pubs dans le métro de marques voilà, qui faisaient des bonnes créations, franchement, tu pouvais pas passer à côté. Et du coup, j'avais vraiment cette envie, mais il fallait avoir les moyens de le faire. Et du coup, j'ai contacté la régie Médiatransport, qui est la régie vraiment qui fait, si tu veux, les publicités dans le métro. C'est pas eux qui font les créations, c'est pas la RATP, mais c'est vraiment la régie publicitaire du métro parisien. Et je les ai contactés, j'ai compris que leur tarif était très élevé. Je me suis dit, ok, bah, va falloir que je trouve une solution, parce qu'en fait, si je paye le prix normal, sincèrement, on va avoir trois pauvres affiches qui se battent en duel et ça va pas être possible. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apporter comme valeur ajoutée qui soit une vraie valeur ajoutée pour eux et qui me permette de leur demander en échange quelque chose, à savoir en l'occurrence un tarif plus intéressant. Et donc, comme j'ai rencontré pas mal de personnes chez Médiatransport, j'ai fini par comprendre qu'à l'époque, c'est malheureusement plus le cas, donc je le précise parce que si jamais certains veulent faire cette négo, malheureusement ça marchera plus, mais à l'époque, voilà. Médiatransport, en fait, cherchait à renouveler ses annonceurs, tout simplement, et chercher à donc trouver une nouvelle niche, si tu veux, qui n'était pas, on va dire, les annonceurs très grand public, type Conforama, Boulanger, tous ces grosses boîtes déjà très très implantées, et chercher notamment des acteurs dans le digital, des startups, si tu veux, pour réussir à avoir plus d'audience, quoi, tout simplement. Et du coup, je leur ai dit, mais attendez, moi c'est super, je connais tout le monde dans le monde des startups, je peux tout à fait, si vous me faites un très bon prix, être un peu votre garant et montrer, notamment si ça marche, en plus j'aurais pas l'impression de mentir ou quoi que ce soit, expliquer que le métro, c'est un super moyen de se faire connaître, parce qu'il faut quand même dire qu'à l'époque, les entreprises digitales n'avaient pas du tout ce réflexe et faisaient que de la pub en web marketing, que de la pub sur Internet, parce qu'elles avaient toujours cette envie de pouvoir traquer chaque vente, de pouvoir tout comptabiliser, alors que quand tu fais une pub dans le métro, bah en fait, tu sais pas combien de personnes l'ont vu, tu sais pas même vraiment qui achète ou pas ton produit via ça. Donc bref, c'est pas quelque chose qui est très digital friendly. Donc je leur explique tout ça et finalement on arrive à monter un partenariat qui a quand même été vraiment pour nous une source de croissance incroyable et honnêtement, je suis pas peu fière de le dire, pour Médiatransport aussi une très belle source de croissance parce qu'en gros, je me faisais le héros du métro mais avec toute la bonne volonté du monde parce que moi ça m'était utile et surtout c'était vrai que ça nous rapportait beaucoup de clients et que je trouvais que c'était un super média et donc j'expliquais en quoi, tu vois, le métro finalement c'était aussi vachement bien même si on était une marque digitale et donc il y a des boîtes comme Made, il y a des boîtes comme Birchbox, il y a des boîtes comme Teddy Bear, enfin le slip français, toutes ces boîtes si tu veux, je pourrais te dire que c'est uniquement grâce à moi mais bon, j'ai quand même joué un rôle d'apporteur d'affaires assez important. Et en échange de quoi, j'avais juste des tarifs qui étaient excellents chez Médiatransport. Je te raconte cette histoire interminable, tout ça pour te dire que, en fait, on peut être créatif même quand on n'a pas grand-chose à donner en échange, mais par contre, il faut viser juste. J'ai pas donné d'argent, j'ai pas donné de visibilité vraiment, mais par contre, je savais que j'avais une chance et que ça faisait quand même déjà 5 ans que j'étais dans le milieu des startups et que je connaissais pas tout le monde, mais que je connaissais pas mal de dirigeants d'entreprise. Et donc, pour moi, ça, c'était une valeur ajoutée clé, en l'occurrence pour Médiatransport. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment dès le départ sur ce point qui me paraît être important, qui est que si tu veux faire un bon partenariat, eh ben, il faut absolument, absolument que c'est de la valeur ajoutée pour toi et pour le partenaire. Parce que du coup, Médiatransport, dans mon cas, si tu veux, nous a effectivement fait des tarifs qui faisait qu'on a placardé tout Paris de métro et c'était vertueux parce que du coup, les personnes qui me contactaient aussi parce qu'ils m'avaient vu dans le métro, donc ils savaient, si tu veux, que j'étais légitime et que je pouvais en parler. Donc c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement sain. À l'inverse, je vais être honnête aussi avec toi, j'ai fait des partenariats foireux parce que c'était moins, c'est pas que c'était moins sincère, mais c'était moins juste au niveau justement de la valeur ajoutée pour nous et pour eux. C'est plus des partenariats où on nous avait cherché et je m'étais dit bon bah pourquoi pas, ça va pas être si compliqué que ça. Et en fait au final ça a été des flops. Je t'en cite un, c'est pas pour faire la mauvaise pub, mais on a été contacté par une marque de thé très connue il y a un moment donné pour faire voilà, un partenariat avec eux où, en échange de notre charte graphique et d'un design qu'on faisait avec eux, ils allaient pouvoir utiliser, si tu veux, notre nom, dire qu'on faisait un partenariat. Ça faisait une opération de communication, si tu veux, sympa. C'était juste là pour parler de nous, dire qu'on faisait une collab. Et en fait, ça a été malheureusement, c'était pas mal exécuté, mais c'était malheureusement pas un grand succès. Simplement parce qu'en fait, bah, il y avait pas énormément d'alignement entre nos deux marques, que nous, on a juste donné un peu de notre charte graphique, expliqué globalement qui on était, mais si tu veux, il y avait vraiment aucun invariant commun entre les deux marques. Enfin, c'était vraiment un pur produit marketing, si tu veux, et de communication. Et de ce fait, ça a été beaucoup de travail. Ça a été en réalité des coûts pour nous aussi, parce qu'on y a passé du temps, parce qu'on a dû investir justement sur de la recherche et développement pour faire en sorte que ça soit bien. Et malgré tout, ça n'a pas donné le succès escompté. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment t'alerter sur le fait que les partenariats, ça peut être absolument génial, mais qu'il faut être très, très vigilant à ce que vraiment, vraiment, de part et d'autre, en fait, ça soit gagnant-gagnant et que ça apporte de la valeur dans un cas comme dans l'autre. Sinon, en fait, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps, du temps que tu ferais mieux de dépenser sur d'autres choses comme te faire connaître auprès du grand public, tu vois.
Non, c'est vraiment intéressant. Bah, merci beaucoup, Pauline. Déjà, pour c'est vrai que ce retour d'expérience, c'est enrichissant et ça me permet aussi de prendre conscience. Donc, c'est vrai que c'est cette dimension gagnant-gagnant, je l'avais un peu en tête, mais bon, là, c'est aussi plus concret. Et puis aussi, prendre conscience que ça se prépare aussi beaucoup en amont, parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà 2-3 personnes qui m'avaient contacté, mais du coup, je pense que c'est important d'être proactif et de construire une vraie stratégie, parce que, enfin, tout ce que tu t'évoques sur les personnes qui contacté ou du coup c'était peut-être aussi peut-être moins préparé en amont et moins pensé et du coup peut-être moins pertinent.
Au-delà d'être préparé, je pense que ce que tu dis est juste et c'est peut-être le fin mot de cette histoire, c'est que il faut qu'il y ait un objectif très clair. C'est-à-dire que si jamais, et c'est pas que je veux pas parfois répondre positivement à des opportunités qui se présentent, mais c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui te démarche parce qu'il veut faire un coup avec toi, mais qu'il n'y a pas un objectif qui est clair pour toi et pour lui derrière, qui soit positif, que c'est juste peut-être que ça va marcher, je te le dis, en fait, 99% de chances que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu réponds juste à une opportunité en te disant « bon, bah finalement, ça va pas me prendre énormément de temps », et on est souvent hein, dans ce cas, moi, ça m'est arrivé plein de fois, à me dire « non, mais au final, c'est pas grave, il y a un upside potentiel, l'opportunité va peut-être me rapporter, je sais pas, plus de visibilité, etc. Et finalement, ça va pas être beaucoup de temps », dis-toi, c'est toujours plus long, toujours plus compliqué qu'on ne croit. Et donc, si tu n'es pas sûr à 100% que ça correspond à tes objectifs et à une vraie opportunité, franchement, je te déconseille de le faire. Parce qu'en fait, dis-toi que c'est toujours la même chose. Choisir, c'est renoncer. Et ce partenariat-là, ce temps que tu vas passer à faire ça est du temps que tu ne vas pas passer ailleurs. Et si tu es aujourd'hui en plus seul sur ton entreprise, ton temps, mais c'est ta denrée la plus rare, il faut absolument que tu sois vraiment au service, en fait, de ce qui va marcher, de ce qui va être le plus efficace. Donc, le partenariat à 1000%, mais vraiment quand il y a une intention derrière, qui est une volonté, un objectif clairement défini et pas juste, tu vois, le truc je réponds à une opportunité parce qu'on sait jamais, peut-être que ça va marcher. Ça, tu pourras peut-être le faire, mais plus tard, quand tu auras une équipe, pas que eux, leur temps est moins précieux, mais disons que vous aurez peut-être plus d'opportunités, tu vois, pour laisser des portes ouvertes à l'imprévu, alors que là, je pense qu'il faut que tu il faut que tu sois extrêmement focalisé vers tes objectifs, je pense, à ce stade de ton développement.
Non, très clair. Et est-ce que tu penses qu'il y a du coup un moment à favoriser, par exemple, est-ce que les premiers mois c'est trop tôt ou est-ce que, enfin, c'est aussi quelque chose qui
sincèrement c'est très variable, tu vois, je pense à une marque comme le slip français, donc la marque, tu sais, de prêt-à-porter 100% made in France de Guillaume Gibault. Eux, je connais pas les détails, mais de mémoire, ils ont commencé à faire des partenariats extrêmement tôt avec d'autres entreprises, donc alors ça faisait peut-être pas 6 mois que la marque existait, hein. Je dirais que ça devait faire un moment mon avis, plutôt 2 ans. Mais tu vois, assez tôt, je me rappelle d'un partenariat avec St. James, ou le fameux partenariat avec le Téléthon, où là, pour le coup, il y avait une vraie valeur ajoutée, parce que St. James est une marque, très jolie marque, mais assez vieillissante. Je pense qu'il voulait redorer son image et la rendre plus jeune. Le Slip Français est une marque 100% made in France qui avait fait un premier coup de com qui faisait que c'était déjà une marque un peu cool, pas très connue, mais assez cool. Et donc, les deux avaient un vrai bénéfice. Le Slip Français, c'était de s'adosser à une marque plus, voilà, plus importante en taille, qui allait vendre ses produits et donc générer du chiffre d'affaires, simplement. Et puis, St. James, c'était tout simplement d'être cool, quoi. Et donc là, si tu veux, le bénéfice, il était clair et c'est arrivé assez tôt, mais c'était pas dans les 6 mois. Toi, ça peut être dans les 6 mois, mais il faut vraiment, une fois de plus, que tu trouves vraiment le partenaire et l'objectif. Donc ça dépend, parce que si ton objectif c'est de faire du chiffre d'affaires, ça peut être le cas, bah, il faut que tu essaies de réfléchir à quel type de partenaire et quel type d'opération pourrait te permettre de faire ça. Ça peut être tout simplement en fait de t'apporter de la légitimité aussi. Ça peut être de la visibilité sans chiffre d'affaires. Enfin, tu vois, une fois de plus, il y a pas mal d'objectifs qui peuvent être différents.
Oui, ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que moi, je suis plus sur un objectif aujourd'hui de légitimité, puisque c'est vrai que étant une entreprise naissante et puis étant seule aussi pour l'instant, je pense que c'est aussi une manière d'apporter une caution au projet, d'être lié à d'autres organismes. Parce que c'est vrai que moi, je pense par exemple assez naturellement à des réseaux, par exemple des réseaux professionnels de femmes, des choses comme ça par rapport à mon projet, et peut-être aussi des choses un peu long terme. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a aussi 2 types de partenariats. Il y a des choses plus court terme et plus long terme. Donc c'est plutôt ça, oui. C'est vrai que...
Moi, ce que j'aurais même tendance à dire, c'est que tu n'es pas obligé de t'adresser à un bon partenaire, à mon avis. Je suis sûre qu'il y a une opportunité pour des boîtes qui veulent montrer justement qu'ils ne délaissent pas les femmes. Des entreprises, ça peut être des grandes entreprises, des banques, ça peut être d'autres entreprises de financement, tu vois, et qui vont, des assurances peut-être, je sais pas. Tous ces secteurs-là qui sont, il faut le dire quand même, assez masculins et qui ont probablement de se donner une image plus féminine, en tout cas de montrer qu'ils... Voilà, ils font des choses pour les femmes. Et toi, bah, c'est vrai que ta mission, en fait, elle est clairement orientée pour les femmes. Enfin, je veux dire, personne n'aura de doute sur le fait que vous essayez d'aider les femmes. Alors, d'une manière financière, bien sûr, mais néanmoins. Et donc, je dirais que si jamais tu veux t'adosser à une boîte plus grosse que toi qui pourra t'apporter de la légitimité, mais toi, qu'est-ce que tu peux lui apporter ? Un peu à la manière du Slip Français qui a apporté de la coolitude, toi, tu vas apporter une caution de féminité, on va dire, ou d'implication réelle, si tu veux, pour aider les femmes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, c'est vrai que, une fois de plus, hein, je n'y ai pas suffisamment réfléchi, mais pourquoi pas réfléchir à des entreprises qui, au contraire, sont plutôt pas très bonnes pour aider les femmes, parce que je pense qu'elles en ont besoin, tu vois.
Oui, oui. Non, c'est vrai, c'est intéressant. J'avais pas forcément pensé à cet angle-là. Parce que c'est vrai qu'on se dit tout de suite que ce sont un peu des mastodontes. Du coup, c'est vrai qu'au départ, moi, j'ai un peu tendance à penser des partenariats à petite échelle, mais c'est peut-être une erreur. Hein. Je pense qu'en effet, il faut.
Tu peux le faire à plus grosse échelle. Tu peux passer aussi par des. Tu sais, toutes ces boîtes ont très souvent, en fait, plein de filiales. Et donc, tu n'es pas obligé de t'adresser. Tu vois, La Poste, par exemple, il y a un incubateur de La Poste. Donc, en fait, ce faisant, ce qui est intéressant, c'est que tu peux travailler finalement avec quelque chose qui fait partie du groupe. Je dis La Poste, hein, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est juste que je sais qu'en l'occurrence, ils ont un incubateur. Mais tu peux, il y a tout un écosystème, tu vois, dans l'univers du groupe La Poste. Et ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que d'essayer de t'adresser effectivement au mastodonte où tu vas avoir des processus de décision où tu sais que le partenariat va mettre 3 ans avant d'être fait, en fait, si tu passes par l'un des acteurs de cet écosystème, mais qui est un petit peu plus petit, qui est un peu plus justement dans l'innovation, ça peut être intéressant. Tu vois, je pense au Crédit Agricole, sans citer de nom. Le Crédit Agricole, évidemment, c'est très difficile de les avoir, mais par contre, il y a le Village Baïséa qui est un incubateur justement à Paris, et donc il y a quand même la légitimité d'être au sein du groupe Crédit Agricole, mais néanmoins qui est quelque chose de beaucoup plus flexible, où je peux imaginer d'ailleurs que tu peux même aller sur place pour en discuter avec quelqu'un. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut réfléchir les choses un peu comme ça, c'est-à-dire vraiment de manière créative. C'est ce que je te disais au début, c'est apporter de la valeur ajoutée, ok, mais tu vas être obligé de redoubler de créativité. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est ça aussi ta valeur ajoutée. C'est que si jamais tu veux vraiment un partenariat qui soit utile, il faut que tu trouves la bonne idée et que tu arrives à la pitcher ensuite. Mais il faut quand même que tu trouves la bonne idée avec le bon partenaire ou le bon type de partenaire. Parce que tu peux avoir une cible avec, tu vois, 2-3 partenaires qui sont en lice. Et je pense que si tu fais ça, une fois de plus, hein, ne négligeons pas le temps que ça prend, mais ça peut aussi t'apporter énormément de choses, comme ça avait été le cas, nous, pour le métro, ou pourquoi, ou le style français, je t'ai donné cet exemple, parce que je sais que ça avait été pour un super tremplin.
Mmh. Oui, complètement. Non, c'est vrai que Village by CA, oui, c'est une bonne idée. Et puis je pense qu'il faut que je sois aussi assez prudente entre guillemets sur mes premiers partenaires parce que ça donne quelque part le ton, je pense pour d'autres partenariats. Donc, enfin pas prudente, mais en tout cas que je choisisse bien et que ça apporte de la valeur, quoi.
Bah, disons que si au début t'as des partenaires qui sont entre guillemets complètement inconnus au bataillon, je pense pas que ça te dévalorisera, mais donc ça n'apportera rien en plus. Par contre, c'est sûr que dès lors que tu arrives à sécuriser un partenaire prestigieux qui a une vraie légitimité, en fait les portes d'après vont s'ouvrir beaucoup beaucoup plus facilement. C'est évident. N'importe qui sait que t'as fait un partenariat avec Village VICA, enfin tu vois n'importe quel organisme financier, va se dire ben attends c'est intéressant. C'est plus les premiers à devoir franchir le pas. Le premier est toujours le plus dur, c'est sûr.
Oui. C'est sûr, ça c'est vrai dans tout ce qu'on veut faire. Même là, je veux par exemple réunir un board. J'avais écouté un de tes épisodes sur les advisory boards et tout. Et c'est vrai que je pense que c'est le même sujet. Hein, la première personne à avoir, c'est plus compliqué. Après, ça ouvre la porte pour d'autres.
Exactement, ça c'est le nerf de la guerre en B2B, notamment le premier gros client, le premier investisseur, le premier tout ce que partenaire, tout ce que tu veux. Bah en fait, il a un rôle qui est essentiel et c'est pour ça aussi qu'il faut souvent bien le choisir. C'est qu'il a un rôle en fait il va représenter quoi. Il va représenter en fait ton premier client et tu peux communiquer dessus. Donc c'est vrai que si tu arrives en plus à avoir un premier client qui est pertinent, enfin je dis client partenaire là dans ce cas, franchement ça peut considérablement accélérer ta boîte. Donc évidemment ça peut être intéressant d'y réfléchir. Et moi, je veux juste te dire que je t'ai cité Village by CA là parce que en parlant avec toi, tu vois, ça m'est venu. Mais je suis sûre qu'il faut que tu réfléchisses. Peut-être entoure-toi de personnes, fais un petit brainstorm, tu vois. Et c'est liste quelles sont les valeurs ajoutées que je peux apporter à d'autres. Oui. Déjà, tu listes ça. Tu dis c'est quoi ce que je peux apporter. Donc là, on a parlé de voilà une caution, on va dire, sur un engagement sur aider les femmes, tu vois, à devenir donc plus pertinentes dans le milieu financier. Enfin, vraiment, liste tous les bénéfices que tu peux apporter à une autre entreprise et ensuite brainstormer. Prends 2-3 personnes avec lesquelles tu t'entends bien. Brainstorm, le fais pas toute seule, c'est toujours plus difficile. Tu auras 80% d'idées pourries, mais tu en auras 20% qui seront intéressantes. Et au sein des 20%, bah, tu en auras peut-être une où tu te diras, mais attends, c'est évident, c'est ça. Et ensuite, après, tu fais ta liste de partenaires potentiels. Enfin, tu trouveras forcément si jamais tu as une idée qui est bonne. Et ensuite, voilà, vient le vrai travail qui est de les démarcher, de trouver le bon discours, etc. J'avais d'ailleurs fait une formation sur l'art de la vente sans vouloir te la vendre, mais qui pourrait être utile là-dessus. Et du coup, je pense que si tu fais ça, si tu veux, de manière un petit peu méthodique, il n'y a aucune raison que tu ne trouves pas. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est tout à fait à ta portée. Et je pense pas qu'il y ait de mauvais moment pour le faire, pour répondre à ta question quand tu disais est-ce que c'est le bon moment ou pas. En plus, c'est vrai que dans ton business, qui est un business plus financier, la légitimité, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, j'aurais tendance à dire que tu peux commencer maintenant, tu vois. Parce que franchement, un partenariat, tu sais, entre le moment où on commence à y réfléchir et le moment où il est effectif, malheureusement, souvent, il y a quand même beaucoup de temps. Donc, dis-toi que là, tu as 6 mois, mais l'entreprise sera probablement bien plus avancée quand il va effectivement voir le jour.
Mmh, oui. Oui, très clair. Bon, bah je pense que j'ai une feuille de route.
T'as une feuille de route. T'as un peu de boulot aussi, quand même, j'ai envie de te dire, Hélène.
Oui, c'est pas ça.
J'aime bien ça. Moi, je staff, tu sais, sur les leçons. Allez, maintenant, tu prends ta feuille et tu y vas.
Voilà. Donc, vu que j'ai pas d'équipe, je ne peux pas déléguer, mais bon, c'est...
Mais c'est pour ça que j'insiste sur le brainstorm à plusieurs, parce que tu sais, je suis passée par cette phase aussi. Enfin, j'avais un associé, mais on n'avait pas forcément le temps. Et puis, même des brainstorms à deux, c'est pas non plus. Vraiment, vraiment, c'est pas parce que t'es seule que tu dois rester seul, demande à des personnes autour de toi. En plus, c'est trop cool ce que tu fais. Enfin, c'est sympa. Merci. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Il y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelques personnes dans ta famille, dans ton entourage, qui n'aient pas envie de participer, qui auront des bonnes idées. Donc, réfléchis à qui est un peu créatif. Tu leur demandes, tu les invites à prendre un apéro. Il y a des terrasses qui sont réouvertes et vous brainstormez pendant une heure.
Enfin,
franchement, c'est ça peut t'apporter énormément. Donc, profites-en.
C'est vrai. Cette idée de brainstorm, même, je veux dire, même sur d'autres sujets, quand on est tout seul, je pense que c'est une bonne pratique de quand on a un point bloquant, de réunir d'autres personnes d'horizons différents et tout. Ouais,
complètement, ça peut t'apporter des avis extérieurs. Tu sais, parfois, on est quand même... on est un peu le nez dans le guidon et on voit les problèmes sous un angle. Et être créatif, c'est ça, quoi. C'est finalement les aborder avec un angle, avec un frame différent, un cadre différent. Et en fait, le meilleur moyen pour ça, c'est juste d'avoir une personne qui n'a pas les mêmes contraintes en tête que toi, peut-être pourra t'apporter quelque chose de différent. Donc là, moi, je t'ai donné une idée, mais si ça se trouve, quelqu'un qui travaille dans un secteur complètement différent va te donner une autre idée. Et c'est ça qui est passionnant.
Oui, oui, bien sûr. Non, bah, super. Super. Merci en tout cas pour ces pistes, Pauline. Je pense que ça va me, ça, ça va dénouer un peu mes questionnements et oui, me permettre de commencer à, enfin, d'avancer, quoi.
Bah, écoute, Hélène, trop cool. En tout cas, je suis ravie. Tiens-moi au courant. Ça me ferait savoir de savoir quelle est cette fameuse bonne idée que tu as réussi à voilà, à voir avec, avec cette fameuse séance de brainstorm. Et en tout cas, je te souhaite un très, très bel été, le meilleur pour la suite, bien sûr. Et puis, bravo pour cette belle aventure. Le nom de l'entreprise, rappelle-moi.
C'est Golden Girls.
Golden Girls. Et du coup, tout ceci se trouve sur Internet, se trouve sur Instagram, se trouve
oui,
partout, pas
tout
encore
à, tout à fait. Si, si, j'ai un compte Instagram qui est actif depuis déjà plusieurs mois avec une petite communauté naissante. Donc voilà, voilà.
Bah voilà, mesdames, si vous êtes intéressés, que vous voulez apprendre à l'investissement, allez foncer sur Golden Girls. Je vais y faire un tour moi-même et je mettrai ça dans les notes en tout cas. Merci Hélène pour ton
merci,
temps.
Merci, merci beaucoup Pauline. Merci à toi.
À bientôt.
À très bientôt. Bel été.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous n'avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.